pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une culture dont le pilier est la langue, une langue longtemps interdite, réprimée, brimée. Une culture qui s'est construite autour de cette lutte pour le droit à parler sa langue et à affirmer son identité en tant que communauté. Comme de nombreuses minorités linguistiques, comme les Roms par exemple, cette communauté n'a pas de territoire. Elle est assez diverse aussi et traversée par de nombreux courants avec des particularités selon les régions. Plus qu'une culture, certains parlent même d'une nation qui a son humour, sa littérature, son théâtre et ses modes de consommation si spécifiques qu'elles en deviennent parfois des cibles de marketing à part entière. Évidemment, lorsqu'on entend pour la première fois la notion de culture sourde, on est parfois surpris, choqué ou amusé. Mais si on réfléchit de plus près, on y trouve toutes les caractéristiques susnommées qui permettent aujourd'hui à Patrick Bellissin, qui est le directeur de l'Académie de la langue des signes française de Paris, d'affirmer comme une sorte de déclaration d'indépendance « Nous, les sourds, revendiquons le droit à la différence au niveau de nos manifestations dans le monde, notre langue des signes, notre culture et notre appartenance à la communauté des sourds ». Pas question bien sûr de considérer la surdité comme une déficience, un handicap, une maladie ou un manque, mais simplement comme un trait individuel qui recoupe une spécificité culturelle et s'inscrit dans la création d'une communauté vieille de plusieurs siècles. Pour bien faire comprendre ce point, l'humour sourd renverse parfois même la proposition et déplace la norme en parlant de nous autres comme de déficients gestuels, d'entendants profonds, pourvus de visiogrammes ou encore de prothèses visuelles. Dans un livre qui s'appelle « Les sourds, c'est comme ça », cité par Caroline Baillet dans la revue Kern, l'auteur ajoute que pour les sourds, qui s'écrit bien sûr avec une majuscule, comme les Corses ou les Catalans, la parole est considérée comme rudimentaire, elle utilise pour eux des mots froids, désincarnés, vides de substance. Ceci étant posé, on se demande aujourd'hui dans les pieds sur terre si on peut avoir une identité sourde sans parler la langue des signes, si les sourds ont eux-mêmes leur sourd. Et que se passe-t-il si on parle la langue des signes, mais pas tout le temps, et qu'on entend quand même un peu? À quel degré de surdité on entre dans la communauté? Aura-t-on, dans ce cas, une double culture, comme franco-bretonne? Quelques réponses et d'autres questions encore avec ce récit de Jeanne Robet, une histoire autour de la surdité dans les pieds sur terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai fait un entretien à la médecine du travail. C'était pour un poste en bibliothèque. Et là, en fait, le médecin, je commençais à lui dire que j'entends pas très bien, que je suis en colocation et qu'au-dessus, il y a un voisin qui, a priori, joue du piano. Et que ma colocataire s'en plaint, ça la gêne. Et moi, j'entends pas du tout ce piano. Donc le médecin me dit bon bah on va faire un audiogramme et là il se rend compte qu'en fait j'ai une perte d'audition assez caractéristique d'une maladie qui s'appelle l'autospongiose avec une perte plus importante dans les graves, c'est pour ça que j'entends pas le piano. Donc il m'incite à aller voir un ORL et là très rapidement l'ORL me dit qu'en effet ben, j'ai bien cette maladie génétique qui conduit vers la surdité. Mais que ça s'opère très facilement. C'est une maladie qui touche l'étrier. L'étrier se calcifie et du coup empêche les vibrations entre le son extérieur et l'oreille interne. En fait, l'opération consiste à enlever cet étrier et le remplacer par une prothèse en téflon. Une opération a priori plutôt simple à faire. Et ben, je vais à la clinique à côté de chez mes parents, une petite clinique de campagne. Le chirurgien, ben, je lui ai fait confiance. Je me souviens, après m'être réveillée, il m'a dit que tout s'était bien passé, qu'il avait ouvert l'oreille, qu'il avait enlevé l'étrier, qu'il avait mis la prothèse et que tout allait bien. Dès le soir, le premier soir après m'être fait opérer, j'ai senti que ça allait pas, qu'il y avait un problème. J'avais des vertiges, j'entendais des gouttes d'eau dans l'oreille, enfin... Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais il m'a dit que c'est normal, je ne vais pas récupérer tout de suite. Mon oreille, elle est bouchée par une grosse mèche en coton. Donc, je ne pouvais pas du tout avoir la sensation de réentendre tout de suite, quoi. Le chirurgien était plus du tout accessible, il était parti en vacances, donc j'avais personne finalement à qui vraiment parler, donc je suis rentrée chez moi. Là, les vertiges s'accentuaient. Et puis, quelques jours après, j'ai fait une surdité brusque. Là, pour le coup, j'ai bien senti que tout d'un coup, je venais de tout perdre. J'entendais plus rien. Donc là, je suis allée aux urgences, à l'hôpital, et pareil, on m'a dit, c'est normal, ça va passer. Mes parents, entre-temps, étaient partis à l'étranger. Donc là, c'est ma petite sœur qui a géré l'affaire, qui avait une vingtaine d'années. Et elle m'a dit, là, ça peut plus le faire comme ça. On va partir à Lyon. Donc voilà, une heure de chez moi. Et là, je suis allée dans un grand hôpital avec un grand spécialiste qui m'a réopérée en urgence. Il a dit, il fallait opérer tout de suite parce que malheureusement, vous avez perdu le liquide interne de votre oreille. Et là, malheureusement, c'est trop tard. Ils ont réopéré, ils ont fait que constater que le liquide interne s'était échappé de l'oreille et qu'il n'y avait plus rien à faire. Ce liquide interne, malheureusement, ne se reproduit pas artificiellement. À partir du moment où ce liquide n'est plus là, toute l'oreille se meurt, toutes les cellules s'assèchent. Donc c'est comme ça que j'ai perdu mon oreille, l'oreille gauche. Je lui ai demandé s'il y avait eu une erreur chirurgicale. Il m'a dit pas forcément. Le liquide s'est échappé après. Je sentais qu'il était assez évasif et puis surtout, je prenais la place de quelqu'un d'autre. Enfin là, c'était fini. L'opération s'était passée. Il fallait que maintenant je parte. En fait, il n'y avait plus rien à faire. J'étais un petit peu évacuée en me disant maintenant rentrez chez vous. De toute façon, on peut plus rien faire pour vous. Donc je les ai suppliés de bien vouloir me faire ma deuxième oreille. Ils m'ont dit « on verra plus tard ». J'ai dit « mais est-ce que vous pouvez me promettre que c'est vous qui allez me faire ma deuxième oreille ?»« On verra plus tard ». Et donc du coup, je suis rentrée chez moi comme ça. Quand mon diagnostic a été posé de la maladie, on s'est rendu compte que les deux oreilles étaient touchées par la maladie. Et qu'il fallait attendre un certain seuil de perte d'audition pour opérer. Et comme du coup c'était la gauche qui était la plus touchée, on a décidé de commencer par la gauche. Et on s'est dit, après on va voir comment la droite évolue et à certains moments on opérera aussi à droite. Sauf que j'ai appris après coup que du coup sur une oreille unique, puisque je venais de perdre l'oreille gauche, après ça, on m'a dit, madame, on ne vous opérera jamais à droite. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'opérer sur une oreille unique. Donc là, ça a été un petit peu le choc. Parce que du coup, je me suis dit, mais si on ne m'opère pas et que je deviens sourde, du coup, j'ai plus de solution, quoi. Je vais devenir sourde, vraiment. Et là, j'ai fait un peu la tournée des cliniques spécialisées dans ce domaine-là. Et j'ai rencontré un médecin dans une clinique spécialisée dans l'audition, dans les opérations de toutes sortes qui concernent l'oreille. Et lui, il s'est engagé à m'opérer à droite, en disant vous inquiétez pas, moi j'opère des personnes atteintes de cette maladie depuis des années, j'ai jamais eu le problème que vous avez eu, je vous assure que ça se passera bien avec moi. Du coup, ça m'a un petit peu rassurée, jusqu'à ce que j'arrive sur Paris. Et que là, je rencontre un autre ORL et pas mal de spécialistes aussi de cette maladie qui m'ont fait promettre de ne jamais me faire opérer à droite. En me disant, ce chirurgien, il n'a pas le droit de faire ça, c'est contre l'éthique, parce qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Du coup, aujourd'hui, j'en suis plutôt là, à me dire que j'attends de voir comment ça évolue et que pour l'instant, je ne me fais pas opérer. Je crois que pendant un certain temps, j'ai voulu croire que j'allais récupérer cette audition. Et là, je me suis un peu lancée dans des médecines parallèles. J'ai fait de la lithothérapie, donc avec des pierres positionnées sur mes oreilles, des pierres que je gardais moi-même, que je nettoyais. Je dormais sur certains types de pierres que j'avais dans les poches. Enfin, voilà. Je suis aussi allée dans un monastère tibétain. Voilà, j'ai fait une retraite avec ma petite sœur qui avait vécu tout ça avec moi. Et je suis restée une petite semaine. J'avais vraiment de la colère en moi. De la colère par rapport à ce chirurgien, de la colère par rapport à ce qui m'arrivait. Et ouais, je crois que j'ai recherché une forme de, ouais, d'apaisement peut-être dans cette retraite. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit ma colère. Et j'avais complètement oublié cette lettre. C'est ma mère qui m'en a reparlé, je crois, quelques semaines. Il me retournait la faute, entre guillemets, en me disant que c'était que dès le départ, je ne lui avais pas fait confiance, qu'il avait senti une forme de doute et que certainement, ça avait dû participer à tout ça et que, de toute façon, s'il ne pouvait rien y faire, ce n'était pas sa faute. C'était arrivé comme ça. Alors c'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être vrai. Et du coup, avec le temps, je me suis dit que finalement, l'erreur avait plus été dans le suivi. C'est que j'aurais dû être tout de suite réopérée. Peut-être qu'en effet, ça arrive, ces surdités brusques suite à ce type d'opération, mais que si j'avais été réopérée tout de suite, j'aurais pu sauver en fait le tout petit peu de liquide qui me restait. Je m'en veux de ne pas avoir percuté, peut-être parce que j'étais jeune, que ma sœur était jeune. On a fait naïvement confiance en nous disant que c'était normal. On a réagi trop tard. Je crois que très rapidement, s'est posé la question, est-ce que je vais faire un procès? Et très rapidement, je me suis dit, il faut que je tourne la page. J'ai pas envie de faire un procès, j'ai envie d'oublier, j'ai envie de repartir sur autre chose. Je crois que ça m'avait fait tellement souffrir que je me suis dit, c'est pas grave, la vie continue, et j'ai arrêté. J'ai pensé à autre chose. J'ai perdu l'audition à gauche en 2001. Et je crois que j'ai dû me faire appareiller en 2004, peut-être. Me faire appareiller à droite, du coup. Mais sachant qu'à l'époque, j'entendais beaucoup mieux que maintenant. Parce que maintenant, quand j'enlève mon appareil, j'entends quasiment rien, en fait. La première fois où j'ai été appareillée, c'était juste insupportable. Pour plein de sons. Et je me dis, jamais je vais y arriver. Jamais, jamais. Donc, par exemple, je crois que le plus caractéristique pour moi, c'est le papier qu'on froisse et le crépitement de quelque chose qui est en train de cuire dans la poêle, par exemple. C'est quelque chose qui est, pour moi, hyper agressif. Il y a tous les bruits de la rue, les voitures, c'est une prise de tête, quoi. C'est trop fort, ça paraît pas du tout naturel. D'autant plus que c'est appareillé que sur une seule oreille, donc le fait de ne pas avoir la stéréo, une amplification sur une seule oreille, ça donne le tournis, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations du même côté. Et au départ, je me suis dit, ça va pas être possible. Hein. Et heureusement, j'ai fait confiance à l'audioprothésiste qui m'a dit, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez magique, si ça fonctionne, c'est que votre cerveau, petit à petit, va prendre ses sons pour quelque chose de naturel. Et en effet, ça fonctionne, plus ou moins. Il y a toujours des situations comme le bruit de la rue, très difficile. Dans un restaurant, c'est très difficile. Le bruit ambiant, plus toutes les conversations qui se croisent, plus les couverts sur les assiettes, les verres qui tintent. Enfin, c'est trop de bruit, quoi. J'arrive plus à faire le distinguo de la voix, c'est tout qui se mélange. L'impression de flottement, elle est plus finalement dans des environnements relativement calmes, où si là j'enlève mon appareil, pour le coup je vois les gens qui parlent, mais j'entends rien. Là, ça fait vraiment une sensation de bulle, ouais. Vraiment. Alors qu'il y a des gens qui sont là, qui bougent, qui parlent, je les vois, mais j'entends pas.
France Culture, les pieds sur terre.
Dans ma vie de tous les jours, c'est un réflexe, je me positionne toujours à gauche. Je fais toujours en sorte de d'abord m'asseoir, par exemple. Je choisis un peu ma place, comme ça les gens automatiquement, comme je me mets en bout de canapé, la personne elle va s'asseoir sur ma droite. Parce que si la personne se trouve à ma gauche, bah, concrètement, je ne l'entends pas. Ou alors, il faut que je me dévisse le cou. Quand on marche dans la rue, bah, des fois, je fais un demi-tour sur la personne qui ne comprend plus parce qu'un coup, j'étais à sa gauche, puis du coup, je reviens à sa droite. Et puis parce que du coup, les gens, c'est très difficile pour eux de se mettre automatiquement du bon côté. Donc après, quand c'est mon entourage professionnel ou amical, je le dis, je le redis. Je le redis et au bout d'un moment ils y arrivent, mais bon, en même temps je leur en veux pas, hein. C'est toujours difficile. Alors attendez, c'est l'oreille droite qu'elle entend, donc c'est là, donc là faut que je me mette là, enfin, donc en fait j'y pense tout le temps. Le restaurant, globalement, j'évite maintenant, ça les amis le savent. J'essaye plutôt chez des gens, et même chez des gens au-delà de 6, dès qu'il y a deux conversations, j'y arrive plus. Hier soir, par exemple, j'étais chez des amis où on était 6. Heureusement, la personne qui nous a invités, elle sait, je lui avais déjà expliqué. Et donc, au moment de l'apéritif, elle a pris la parole et elle a expliqué aux deux autres personnes qui se trouvaient là et qui me connaissaient pas que du coup, j'avais une perte d'audition, que j'avais un appareil et que pour mon confort et finalement le confort de tout le monde, il fallait faire qu'une seule conversation. Par contre, ben, ma limite, c'est en effet les grosses fêtes, quoi. J'ai vécu il y a quelques années une fête d'anniversaire dans un gîte à la montagne avec que des amis que j'adore. Je sais pas, on devait être 20, 30. Et pour moi, finalement, ça s'est résumé en une grosse frustration, une grosse dépression. Je suis revenue ce week-end, j'étais complètement déprimée parce que j'arrive absolument pas à suivre. Dans ces grandes tablées, c'est juste pas possible. Il y a toujours quelqu'un qui va être à ma gauche. S'il y a personne à ma gauche, c'est que je me trouve en bout de table, d'une bout de table de 30 personnes qui rigolent, avec les blagues qui fusent, l'alcool aidant. Moi, je peux pas, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens rigolent et j'ai envie de participer, mais ça tombe à côté de la plaque. Je dis un truc qui vient déjà d'être dit. Ça, c'est compliqué. Si j'arrive pas à participer aux conversations, je me sens plus trop exister, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression de perdre ma personnalité. Si moi, j'arrive pas à suivre et à m'exprimer, ben là, c'est là où je déprime le plus, en fait. Parce que j'ai l'impression de disparaître. Et je crois que c'est la grande difficulté des personnes malentendantes, voire sourde, le gros risque, c'est l'isolement. En fait, j'essaye de tellement compenser pour faire encore partie des conversations, par exemple, pour lutter contre cet isolement. Je vais rire, par exemple, aux blagues, parce que je vois qu'il faut rire, alors en gros, je rigole. Et ça fait que d'autant plus renforcer mon sentiment d'être nulle, parce que je vais pas participer, mais les gens croient que je suis la conversation. Je vais faire semblant d'avoir compris et de rire, mais pour le coup, comme je ne vais pas donner mon avis, je passe pour quelqu'un qui finalement n'a rien à dire. Donc c'est un travail sur moi de ne plus avoir à faire ça à tous les niveaux, déjà pour moi et aussi pour mes amis, parce qu'à faire semblant, du coup, ils n'arrivent pas à comprendre quelles sont mes limites, à quel moment j'entends plus. Voilà, ma copine me dit, mais dans ces cas-là, il faut mieux t'isoler, prendre un livre et aller lire. Mais c'est quelque chose qui est tellement dur pour moi de m'isoler de ce groupe, de créer un mouvement trop bizarre, en fait, pour tout le monde, quoi. Je suis avec des amis et je suis invitée, mais je prends un livre et je vais aller lire dans une chambre. C'est trop difficile, quoi, pour moi. Mais il faut que j'apprenne à le faire, ouais. Et pour eux et pour moi. C'est quelque chose de très dérangeant pour moi parce que je m'entends parler à l'intérieur, enfin ça résonne. C'est quelque chose qui m'a beaucoup gênée au départ quand j'ai perdu mon oreille à gauche. C'est cette impression de caisse de résonance. Un peu comme quand on met des boules caisses ou qu'on est vraiment hyper enrhumé. Ça, je l'ai en permanence. Plus j'ai des acouphènes du côté de l'oreille où j'entends rien, en fait, sur l'oreille gauche. J'ai beaucoup d'acouphènes en permanence. Et du coup, quand je parle, pour moi, c'est hyper fort dans ma tête. Et du coup, je parle doucement. Mais parler plus fort, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que je crie dans ma tête. Donc ça, franchement, ça me fout bien les nerfs. Et j'ai en permanence un son un peu comme... quand les gens me demandent ce que c'est un peu comme une radio qui est mal branchée, en fait, entre deux stations. Et ça, pareil, j'ai beaucoup travaillé, alors là, pour le coup, en sophrologie, en hypnose, pour essayer de faire abstraction de ces sons-là. Et la majeure partie du temps, j'arrive à les oublier, en fait. Ça a fonctionné. Là, je suis vraiment contente de ça. Alors là, j'en parle et je les entends. Dès que j'en parle, dès que c'est le sujet, ben, je les entends. Mais... la plupart du temps, je les entends pas.
Est-ce que t'entends là l'avion qui passe ?
Non, là j'entends des enfants qui crient, non ? Y a pas des enfants qui... Ouais. L'avion, en fonction de comment je me positionne par rapport à la fenêtre, je vais l'entendre. Mais c'est un peu grave. J'entends plus, par exemple, les voix d'enfants parce que c'est plus aigu pour le coup. Je n'écoute plus beaucoup de musique. Ce que je fais encore de temps en temps, et pas suffisamment et que j'aimerais faire plus, c'est des concerts. Parce que là, pour le coup, la musique, elle est tellement forte et il y a énormément de vibrations. Et les basses sont puissantes. Moi, j'entends pas les graves. Et dans des bonnes salles de concert, avec des bonnes basses, c'est hyper fort pour moi, quoi. Je l'entends, je le ressens, ça vibre au niveau du corps, au niveau du cœur. Et ça, j'adore. J'ai intégré la mairie de Grenoble, j'étais attachée de commission et donc c'était des grosses réunions avec 20 à 30 personnes qui débattaient des textes qui allaient être votés au conseil municipal. Je devais prendre note de tout ce qui se disait, mais j'ai été face à mon problème d'audition, c'était extraordinaire comme j'étais en difficulté en fait. Et je mettais mon appareil à fond, en plus c'était des réunions où ils apportaient des plateaux repas. Avec un bruit ambiant, ils prenaient pas toujours le temps de respecter le temps de parole, donc ils parlaient en même temps, il y avait pas forcément de micro, enfin. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, je suis quand même en difficulté. Et je me suis dit, je suis malentendante, je risque de devenir sourde si je veux pas perdre ma capacité à communiquer, il faut peut-être que finalement je me prépare et que je prévienne le coup et que finalement j'apprenne la langue des signes. Voilà, donc ça a été un petit peu une révélation. Donc j'ai demandé à ma direction si je pouvais faire une formation. Et tout le monde a accepté, ma direction, mon employeur. J'ai eu beaucoup de chance, hein. Ils m'ont payé la formation pendant 6 mois à Paris avec un maintien de salaire. Donc je suis partie à Paris pour suivre cette formation en langue des signes, en accéléré en fait, en intensif. Finalement il s'est passé que j'ai adoré la langue des signes, que j'ai tout de suite accroché, et que surtout j'ai eu envie de continuer à travailler avec cette langue. Et qu'à la mairie où j'étais, il n'y avait aucun poste qui me permettait ça. Donc j'ai postulé dans un institut pour jeunes sourds à Paris, une école. J'ai postulé en tant qu'enseignante de français, étant donné que j'avais fait des études de lettres modernes. Et j'ai commencé à la rentrée qui a suivi, en fait. En septembre 2010, j'ai commencé en tant qu'enseignante pour jeunes sourds, donc enseignante de français en langue des signes. Et quand je suis arrivée dans cette école, en effet, avec ma position de devenant sourde, je pouvais avoir cette identité sourde finalement que j'avais jamais eue, puisque j'étais plutôt entendante jusque-là, ou malentendante, mais pas sourde. Et ça a été un questionnement pour moi de savoir comment je me positionne finalement par rapport à cette communauté. Est-ce que je suis sourde? Est-ce que je suis malentendante? Sachant qu'il y a un débat sur ce mot, est-ce qu'on dit malentendant? Est-ce qu'on dit sourd? Et c'est vrai que je ne me suis pas forcément identifiée à cette communauté. J'arrive pas à dire que je suis une personne sourde. Moi, j'entends encore. Donc, ouais, je crois que j'ai peut-être du mal avec ce mot-là. Ouais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on dit plus sourd-muet. Parce qu'il y en a beaucoup, quand ils parlent des sourds, ils disent sourd-muet. Et on l'entend encore partout, hein, à la radio, à la télé. Donc, les sourds se sont aussi battus pour qu'on enlève ce mot-là de muet. Parce que les sourds ne sont pas muets. Ils sont en capacité de parler, ils ont des cordes vocales. Pour certains, ils savent même parler. Pour d'autres, ils savent parler, mais ils ne souhaitent pas le faire. Mais c'est très rare qu'une personne soit réellement muette. Il faut avoir un problème de santé au niveau des cordes vocales pour être muet. Aujourd'hui, je ne pense pas vraiment à l'avenir. Je préfère pas penser au pire, en fait. Donc c'est un peu peut-être une forme de déni. Je m'y prépare pas. Enfin, la langue des signes, c'était une forme de préparation. Mais à part ça, je m'imagine pas du tout devenir sourde. Complètement. Parce que pour moi, je suis dans l'oral. Mes amis sont dans l'oral et j'ai envie de pouvoir communiquer avec tous les gens, quoi. Je veux pas simplement pouvoir communiquer avec ma sœur qui a pris la langue des signes ou ma copine ou quelques personnes qui connaissent la langue des signes, parce que ça me semble tellement réduit par rapport au champ des gens que je peux rencontrer. Là, pour l'instant, ça, j'y pense pas.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Jeanne Robet réalisé par Alexandra Malka. N'hésitez pas à partager nos émissions sur les réseaux sociaux si elles vous ont intéressé, à les poster sur Facebook, à les indiquer sur Twitter, à les liker. Sandrine Chaperon, c'est bien sûr l'attachée de production des Pieds sur Terre.